Vous écoutez RTL. 11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Bonjour, bienvenue, on vous souhaite une très bonne fin de matinée à l'écoute d'RTL comme chaque jour. RTL vous régale, voici venu votre rendez-vous de la régalade absolue. Bienvenue à vous dans le plus grand garde-manger de France. Enfin, il y en a des pensifs, hein. On les connaît. À mes côtés, Nathalie Elal.
Bonjour. Bonjour, bonjour à tous.
Jean-Sébastien Petit-Demange, chroniqueur au Guide du Routard. Alors vous le savez, et si pas, je vous l'apprends, tous les matins de l'été, le pari est simple, on vous propose deux produits qu'on a tous eu un jour dans nos réfrigérateurs, c'est vrai, nos placards, on va vous donner envie de cuisiner, de passer à table. Le pari est simple, c'est d'apprendre, de vous apprendre des choses aussi, tout en se régalant ensemble. Alors de l'info, de la conso, de l'histoire, RTL vous régale, c'est carrément l'émission qui s'intéresse à votre assiette, à votre caddie, à ce qui se passe dans votre frigo, et il s'en passe des choses, parce qu'on peut franchement en parler pendant des heures. Tiens, aujourd'hui, par exemple, si vous avez envie de nous dire ce que vous avez dans votre frigo, on peut prendre un pari assez simple. Sur base de ce que vous avez, Nathalie peut vous indiquer ce que vous pourriez éventuellement préparer ce midi ou ce soir.
Mais je viens pas le cuisiner chez vous, hein, on n'exagère pas quand même.
On peut pas tout faire non plus. Mais en tout cas, sur base de ce qui resterait dans le frigo. Vous savez, quand on part en vacances, par exemple, il reste 2-3 trucs. Plutôt que de les jeter.
Des épluchures, par exemple.
Il y a des choses à faire avec des épluchures de pommes de terre.
Tout à fait.
Voilà, tentez le coup. 3210 par téléphone ou SMS 64 900 avec le mot régal. N'hésitez pas, cette émission est la vôtre. On passe à table avec vous tous les matins sur RTL. Et aujourd'hui, une association qui peut paraître surprenante.
C'est devenu un classique en fait, un fromage de chèvre et betterave.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Tout simplement, le fromage de chèvre qui est un peu vif et piquant, c'est un parfait complément à la douceur sucrée de la betterave. Ça fait environ, allez, une bonne dizaine d'années qu'on voit cette association et qui fonctionne très très bien dans beaucoup de recettes.
Alors le suspense a assez duré, Nathalie. Chez Bruno Guillon, il y a quelques minutes, avec Jean-Sébastien, on lançait cette petite devinette. Savez-vous d'où vient le nom du crottin de Chavignol? Ça n'a rien à voir avec l'excrément de la chèvre. Hein.
Non, il vient du croc qui se décarcasse d'ailleurs aussi, il faut bien le dire. Alors le croc, c'est quoi? C'est une petite lampe à huile en terre cuite qui a été le premier moule du crottin de Chavignol dès le 19e siècle, voilà. Le début du 19e siècle.
Le croc, c'est O-R-T, c'est on O-R-T. Ne prononce pas le T.
Non, vaut mieux pas.
C'est important. Qui dit fromage de chèvre dit évidemment Jean-Sébastien chèvre, et quand je parle de chèvre, je me tourne vers vous.
Mais pourquoi donc?
Je ne sais pas.
Parce qu'il va bêler, il va bêler.
C'est une espèce de réflexe pavlovien.
C'est mon côté plutôt Pierre Richard ou plutôt Gérard Depardieu?
La chèvre.
La chèvre, elle a été domestiquée depuis le début de l'agriculture, c'est-à-dire nous sommes au néolithique, il y a 10 000 ans. C'est une chèvre, c'est un animal qui est très très populaire depuis. On en parle partout. Vous prenez toute la littérature grecque, romaine, on parle de la chèvre. Homère raconte qu'Ulysse entra dans une étable où chevreaux et agneaux étaient soigneusement séparés, où les clés étaient chargées de fromage et où les vases à traire pleins de lait sur lesquels flottait la crème faisaient florès. Il y avait du pain, il y avait l'oignon, il y avait le fromage. Tout ça était la base de l'alimentation des soldats grecs. Il faut le savoir. Et puis durci, ce fromage pouvait être émietté dans le vin et constituer un reconstituant qui était largement apprécié par tout un chacun. Et puis après, les Romains, Caton en parle dans son De Agricultura. Columelle en parle dans Derrere rustica.
Vous pouvez me le refaire, celui-là, par exemple?
Derrere rustica. C'est pratiquement un manifeste, si ce n'est pas une manifestation. Enfin, en attendant, c'est vrai que l'élevage caprin a commencé il y a des générations et des générations, qu'il se poursuit, Dieu merci. Et alors, ce qui est intéressant à découvrir, c'est qu'en fait, en France, on fait du fromage de chèvre la plupart du temps sous la Loire. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les invasions sarrasines qui ont introduit l'élevage de la chèvre, parce que forcément, les sarrasins, quand ils sont arrivés, souvenez-vous, Poitiers 732, ils voyageaient avec leur nourriture. Donc, ils voyageaient avec des chèvres. Et certains...
C'est pratique, hein?
Oui, généralement, dans toutes les guerres, on voyage avec son manger. C'est le but du jeu.
Je suis venu avec ma chèvre ce matin. Je peux la garer
où? Les sarrasins qui sont restés au bout d'un moment, moment, en fait, ont introduit l'élevage caprin et surtout ont développé le savoir-faire du fromage de chèvre. Et le chabichou du Poitou est né comme ça, grâce aux Sarrasins qui sont restés après 732, après Charles Martel.
Je ne sais pas vous, mais j'ai quand même rarement rencontré un type qui s'emballe autant en parlant de chèvre. Je vous sens ému, Jean-Sébastien, et c'est beau à voir.
J'adore le fromage de chèvre.
Ça ne se sent pas. Nathalie.
Oui, je voulais vous dire une chose sur la chèvre. En fait, c'est un petit peu la vache du pauvre, parce que la chèvre, elle n'est pas du tout exigeante hein, dans le choix de sa nourriture. Donc, là où on ne pouvait pas élever des bovins, eh bien, on a élevé des chèvres. Alors, elle coûtait peu, elle ne nécessitait pas de terre. Donc, le plus souvent, on l'attachait à un piquet. Elle dormait à la belle étoile et puis elle était emmenée le matin par les enfants ou la grand-mère. Et puis, elle se nourrissait de ronces et puis de broussailles. Elle faisait un peu, en fait, le travail du cantonnier, il faut bien le dire. Puis, elle fournissait aussi le lait des nourrissons, parfois donné en complément du lait maternel. Et puis quand même, il y avait une chose très avantageuse pour les gens qui en possédaient une, c'est qu'il y avait deux fois par an la naissance d'un chevreau. Donc ça donnait un petit peu de viande, on la mangeait à l'épiphanie, on la conservait en la salant. Et puis ensuite, il y a une chose intéressante aussi avec la chèvre qui s'est passée au 19e siècle, c'est qu'elle a permis des échanges de denrées. Il y avait des colporteurs et parmi eux des charbonniers qui échangeaient dans les fermes leurs marchandises contre, entre autres, des fromages de chèvre. Et puis ça s'était vendu évidemment aux crémiers des Halles, c'était affiné dans des halloirs.
C'est une vraie tradition historique, ancestrale. Il faut dire que la France est leader de la fabrication de fromage au pur lait de chèvre cru. C'est leader mondial carrément, avec je crois 85 000 tonnes produites.
Absolument, on est le dixième, on a le dixième troupeau européen
sur le cheptel.
Sur le cheptel, on est les leaders en termes de fabrication de fromage. Et tout ça s'est développé de manière absolument considérable à partir, comme la plupart du temps, les échanges de toute manière dans tous les aliments en France à l'arrivée du train au 19e siècle, quand on a commencé à pouvoir voyager rapidement en France. Toute la France a découvert les spécialités qu'il y avait dans chaque région, voire dans chaque famille, puisqu'on avait un élevage à soi. On faisait son fromage de chèvre. Et puis à partir de là, eh bien on a commencé à avoir des techniques qui ont essaimé et toute la France a découvert le crottin de Chavignol, le chabichou, les fromages de Loire, le Sainte-Maure de Touraine, tous ces fromages magnifiques qui font l'honneur de la France.
On en mange tellement en France que ça peut même devenir une addiction. On en parlait tout à l'heure également avec Bruno. C'est vrai qu'il y a un truc dans le fromage de chèvre qui peut s'apparenter à une drogue.
Après, bon, vous savez, il faut toujours se méfier avec les études des universités américaines. Mais en attendant, c'est vrai qu'en préparant l'émission, j'ai retrouvé ça. C'est l'addiction au fromage et au fromage de chèvre notamment peut en être une au même titre que la cocaïne, l'alcool ou le tabac. C'est l'université du Michigan qui dit ça, et cette addiction qui est certes moins sévère, mais qui est due à la protéine, à la caséine qui est dans ces éléments et qui fait que ça libère de la casomorphine, qui est une molécule qui a pour effet d'activer les récepteurs du cerveau liés à la dépendance. Donc on peut devenir addict et accro au fromage de chèvre.
Vous voulez du chèvre ? Juste un trait. Merci Jean-Sébastien. On va se retrouver dans quelques instants pour RTL vous régale. Fromage de chèvre et betterave.
11h-12h30.
RTL vous régale.
Bienvenue à vous dans le plus grand restaurant de France. On passe à table avec vous tous les jours jusqu'à midi et demi. Et en direct, 3210, SMS 64 900 avec le mot régal. Je vous rappelle que si vous souhaitez tenter de coller Jean-Sébastien ou Nathalie, c'est possible. Il va falloir être costaud, mais on peut le tenter. Pour gagner des guides du retard ou des montres RTL, je vous souhaite bonne chance. Nathalie, un mot rapide sur les variétés de fromage de chèvre. C'est vrai qu'en France, il y en a...
Il y en a une centaine, au moins.
Facile.
Oui, facile. On peut en citer plein. Alors, Rocamadour, le Pélardon, le Bannon, le Sainte-Maure, le Pouligny-Sainte-Pierre, le Valençay, le Chabichou, le Cabécou, et j'en passe, et des meilleurs, évidemment. Alors, en grande majorité, il s'agit de fromage avec une pâte tendre et une croûte naturelle. Mais il existe quand même quelques fromages avec une croûte fleurie. Et alors, quelque chose encore plus original, ce sont des chèvres à pâte pressée et non cuite. Et ça, c'est la famille des tomes et chevrotins, spécialité savoyarde, alors que les autres fromages de chèvre, ils sont fabriqués dans cinq régions. Pays de Loire, Poitou-Charentes, Centre, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes.
Il y a des AOC, au fait, sur les chèvres, Jean-Sébastien ?
Absolument, il y a 13 AOP, et c'est des merveilles absolues que Nathalie vient de citer. Il y a le Chabichou du Poitou, il y a le Crottin de Chavignol. Je pense que mon préféré, il y en a deux. Il y a le Sainte-Maure de Touraine, avec la petite paille à l'intérieur où il y a marqué Sainte-Maure de Touraine pour assurer que c'est un vrai Sainte-Maure. Et puis le Rocamadour qui est un fromage à pâte molle et à croûte naturelle qui est ce petit palais qui est un peu plus épais que le Cabécou. Une petite croûte blanche et un goût absolument sublime qui se corse en vieillissant. Non pas qu'il part en Corse, hein, mais il prend de l'ampleur. Et moi, ce que j'adore dans les fromages de chef, c'est ce goût véritablement intense, c'est cette richesse de goût qu'il y a dans le fromage de chef. C'est pour moi quelque chose de totalement génial.
Juste une question, je parlais d'AOC, vous parlez d'AOP, c'est quoi la différence? AOC, appellation d'origine contrôlée.
Les AOC sont devenus les AOP, au niveau européen.
Voilà. Comme ça, on sait ce qu'on achète. Un point diététique.
Oui, alors on a toujours l'impression que quand on mange du fromage de chèvre, on mange moins gras que du fromage de vache. C'est pas forcément vrai parce que il y a plus d'acides gras à chaîne courte. Alors ça, bon, on rentre dans la diététique, mais enfin en attendant, ce qui est important à retenir, c'est que il y a de la vitamine A, il y a de la vitamine B, c'est riche en oligo-éléments, il y a du zinc, du sélénium. Ça, c'est pour les maladies dégénératives. Et puis ça protège la flore intestinale. Ça, c'est formidable. C'est excellent pour les muscles et les os. C'est bon à la santé.
Moi, ce qui me surprend le plus, je vous interromps, c'est que le chèvre est moins calorique dans sa version pâte molle.
Ah bah oui, mais ça c'est pareil pour c'est un peu pareil pour les fromages de vache général, parce que pâte molle, pâte cuite, c'est différent.
C'est marrant parce que psychologiquement, on a le sentiment quand on mange un chèvre sec, moins il est calorique.
Pas du tout.
Et ben voilà, comme quoi on fait des erreurs. Nathalie, un mot sur ce fromage de chèvre et ses associations en cuisine.
Oui, tout de suite une petite idée de risotto, tiens, qui change un peu parce qu'il est rose ce risotto. Vous allez faire fondre un petit oignon haché finement dans de l'huile d'olive, vous ajoutez 150 g de riz spécial pour risotto, vous remuez jusqu'à ce que chaque grain soit enrobé d'huile, vous allez verser dessus 30 centilitres de vin blanc, vous laissez cuire jusqu'à évaporation du vin, et là vous ajoutez notre deuxième produit du jour, 250 g de betterave coupée en petits dés, ou de préférence, moi je préfère la râper, c'est plus pratique, et puis vous versez doucement, amoureusement, louche à louche, 75 centilitres de bouillon de légumes, vous remuez tout ça constamment jusqu'à ce que le riz soit cuit à votre goût, toujours un petit peu al dente, et puis vous assaisonnez, et puis pourquoi pas un petit peu de parmesan râpé, et là-dessus vous répartissez dans des assiettes, et là vous disperserez dessus du fromage de chèvre coupé en dés et vous décorez, si vous le souhaitez, c'est avec mal, du persil. Ça, c'est pas mal. Et puis, je voulais saluer un auditeur fidèle, Richard, qui nous a envoyé une très jolie idée pour l'apéro. Alors lui, il met dans un plat qui va au four, un plat genre plat porcelaine à feu, vous savez, eh bien, une petite betterave crue avec dessus une cuillère de mascarpone, un peu de sel, pas trop, un rocamadour très frais, poivre du moulin, un petit filet d'huile de noix, quelques cerneaux de noix et tout ça 1 minute 30 au micro-ondes. Et alors, ça va bluffer vos invités.
On vous parlera de betterave tout à l'heure, évidemment, c'est raccord. Juste un mot sur la betterave crue, il faut faire attention, il y a un débat qui anime aujourd'hui les consommateurs.
Non, ce n'est pas les consommateurs, c'est un débat qui anime surtout la sécurité alimentaire en France. En fait, il y a des recommandations qui sont faites comme quoi il ne faut pas manger de betterave crue. Il faut faire très attention avec la betterave crue, parce que la betterave absorbe un nombre de bactéries absolument considérable à cause du sucre qu'elle contient. C'est une véritable éponge. Il y a eu des problèmes dans certaines cantines, notamment. Donc, il faut faire attention. Il y a toute une littérature. Si vous googlisez et que vous allez dans la rubrique actualité, vous aurez toutes les informations là-dessus. Et il faut faire un peu attention.
Alors, on sait que dans RTL vous régale, vous avez l'occasion également de découvrir de vraies recettes élaboré par Nathalie Elal, ou pas d'ailleurs, sur le site RTL.fr. Vous allez sur la page de l'émission RTL vous régale, et ce matin, par exemple, on vous a posté la charlotte de courgettes aux chèvres.
Oui, c'est un de mes classiques, avec des petites courgettes, du fromage de chèvre frais, demi-sel, de l'ail, des petits oignons, ou ce qu'on appelle des cébettes, c'est encore mieux si vous en avez sous la main, de la menthe, du coriandre et du cerfeuil frais, du sel de Guérande et du poivre blanc du moulin. J'ai dit du coriandre, c'est de l'ail,
j'allais vous dire,
excusez-moi. Oui, énorme faute.
J'hésite toujours, pareil. Si vous avez des questions, des commentaires ou de la coriandre, n'hésitez pas, 3210, le standard, ou par SMS, vous envoyez le mot régal, suivi de votre message, au 64 900, il y a des guides de retard et des montres RTL à gagner. A tout de suite sur RTL. RTL.
11h-12h30. RTL vous régale.
Et je vous en parlais il y a encore deux minutes. C'est vrai que vous pouvez tenter de coller nos spécialistes dans cette émission avec, pourquoi pas, des spécialités locales, régionales, des produits qui sont bien de chez vous et qu'on n'est pas forcément censé connaître. Hein. C'est vrai, vous ne connaissez pas tout, avouez-le, Nathalie.
Non, loin de là.
Même si ça vous agace,
j'adore,
Jean-Sébastien.
On en apprend tous les jours.
On en apprend tous les jours dans cette émission, c'est important. On va accueillir Annie. Bonjour Annie.
Bonjour Annie.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Vous appelez d'où, Annie?
Alors, j'appelle d'un petit village dans le Jura, ça s'appelle Viry.
D'accord. Le truc dont on va parler, ça vient de chez vous, c'est une production, c'est une spécialité de votre région.
C'est très local.
D'accord.
C'est très local.
De quoi allez-vous nous parler?
Alors, je voulais vous demander ce que c'était que le michon avec un M.
Il est fleuri? Il est fleuri? Non.
Non,
pas encore. On va le fleurir.
Ah là là. Qu'est-ce que c'est que le michon, spécialité très régionale, propre au Jura?
Semble...
C'est de chez vous, ça, non?
Non, bah non, moi je suis pas du Jura, je suis des Vosges.
À partir de maintenant, c'est chez vous. Alors vous, c'est bien. Vous, par contre,
il me semble que, en fait, c'est un peu le même genre que ce dont nous avons parlé hier, à savoir les gaudes. Et c'est, ça fait partie de, me semble-t-il, de ces galettes d'inspiration
crêpe,
locale,
une sorte de crêpe
et galette, oui. Une crêpe un peu épaisse, qui est faite à base de du fromage star qu'il y a dans le Jura, à savoir le comté.
Tout à fait.
C'est
tout
ça.
À fait.
Vous le faites, le michon?
C'est fin, délicieux.
Ah, oui, mais j'ai ma maman qui le fait encore mieux que moi.
Bah, c'est généralement le cas.
Voilà.
Donc,
général,
pour qu'on comprenne bien, Annie, le michon, c'est le nom qu'on donne à cette crêpe au comté, c'est ça?
Oui, alors attendez, il y a... Vous pouvez me dire un peu les ingrédients qu'il faut mettre dedans?
Oh bah, il y a de la farine.
Crêpe, hein.
Attention, elle est taquine.
Bon, du comté râpé.
Vous voulez les proportions aussi, non plus?
Non. Oh bah, si vous voulez, je vous donne les mensurations à la rigueur.
Non, mais c'est intéressant, Nathalie, par exemple. Est-ce que vous connaissez les ingrédients à mettre là-dedans?
Je pense qu'il doit y avoir du comté râpé, non?
Non, ça,
non,
on l'a dit.
Pas râpé, le comté. Il faut le mettre en lamelles.
En lamelles.
Ouais.
Ah, ça change
voilà.
Tout. De l'eau et de la farine,
bah oui,
forcément.
Oui.
Farine de froment. Farine de froment.
Non, de la farine blanche, normal.
La farine de blé, ouais.
De blé, voilà.
Mmh. Du sel, évidemment.
Oui. Mmh. Du poivre.
Il n'y aurait pas un peu de pommes de terre?
Ah, râpée? Pas du tout.
Non, ça aurait pu,
non.
Hein.
Oui, ça aurait pu, mais non.
N'importe
non.
Quoi, Nathalie.
Je pars en boulot ce matin,
On va dire un œuf et un peu de lait.
C'est le chef qui remonte.
Il n'y a pas de lait?
Non. Il n'y a pas de lait.
Bon, alors, je pense qu'il serait plus simple que vous nous disiez directement de quoi il s'agit.
De l'œuf.
Voilà. Non, il y a donc de la farine.
Oui.
De l'eau,
d'accord.
Du sel, du poivre et du comté en lamelles.
On mélange tout et on fait cuire.
Voilà, dans du beurre de préférence. Il y en a qui le mettent dans l'huile, mais c'est moins digeste.
À la poêle.
À la poêle, vous mangez ça avec une salade verte et ça tient au ventre, vous êtes tranquille.
Une tisane et au lit. Hein.
Voilà. Le michon, spécialité régionale, c'était signé Annie de Viry dans le Jura. Annie, on va vous envoyer une montre RTL, femme ou homme?
Oh ben, je vais prendre femme.
Oh bon, elle sera pour vous et un guide du routard pour vos prochaines vacances. On vous embrasse, on vous remercie d'écouter RTL.
Merci à vous et puis continuez. Merci bien.
Merci.
Bon appétit, à bientôt.
Le grand jeu RTL de l'été.
Et j'annonce du cadeau formidable sur l'antenne d'RTL. À 11h34 ce matin, nous allons jouer au grand jeu de l'été avec Laurence. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Comment ça va ce matin?
Bah écoutez, ça va très bien, très très bien.
Vous êtes en cuisine ou
vous
êtes en cuisine ou pas?
Ah oui, je suis en cuisine.
Jurez-moi que c'est vrai. Qu'est-ce que vous préparez pour ce midi?
Je vous jure que c'est vrai. Oh, c'est très simple aujourd'hui, c'est bistec frites.
Ah oui, on n'est pas du tout dans le code chèvre et betterave, donc très
pas
bien.
Du tout.
Pas parfait.
Du tout. Pourtant, je suis dans la région du chèvre, puisque
vous appelez
à côté de Niort et de Mel.
D'accord.
Je suis entre Niort et Mel, donc voilà, on a
dans les deux chèvres.
Fromage par chez nous.
Absolument, joli,
exactement.
Joli.
C'est ça, c'est beau, fallait la faire.
Vous êtes dans quelle ville ou village?
Je suis à la crèche, exactement.
La crèche?
Oui.
Vous êtes un peu comme les rois mages en Galilée, suivant fidèle l'étoile du berger, justement.
Voilà.
Très bien, on va jouer avec.
Aussi,
ça. On fait ce qu'on peut, vous savez, ma petite dame. Ah, je vais vous donner le choix pour tenter de gagner un chèque cadeau Spartoo.com ou une console de jeu Nintendo Switch. Le choix de jouer entre Bruno Guillon et Jacques Pradel.
Alors écoutez, je vais prendre Bruno Guillon.
Alors c'est avec Bruno que vous avez choisi de jouer et j'espère qu'il vous portera chance.
Bonjour, c'est Bruno Guillon. Attention, roulement de tambour. Oui, je fais très bien le tambour. Maintenant qu'on est dans l'ambiance, j'ai le plaisir de vous offrir un chèque cadeau de 200 euros à utiliser sur le site spartou.com. Bravo à vous et bon shopping grâce à RTL.
C'est gagné, Laurence.
Eh ben, écoutez, je suis ravie. Merci beaucoup. Merci
200
beaucoup
euros de chèque cadeau pour vous faire plaisir sur le site spartou.
Je pense qu'on va trouver largement.
Oui, c'est toute la mode. Il y a hommes, femmes, enfants en plus.
Ouais.
Donc, je pense que vous pourrez trouver chaussures à votre pied. On vous embrasse.
Ouais,
on vous souhaite de très belles vacances et bon steak frites.
Un bel été à vous aussi. Au revoir.
À bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à vous inscrire. Prochain rendez-vous dans l'été des grosses têtes aujourd'hui à 16h. Vous inscrivez dès maintenant en appelant le 3010 ou en envoyant le mot été par SMS au 74 900. Bonne chance à vous.
Le grand jeu RTL de l'été.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Le chèvre et la betterave. On dirait un peu un truc de La Fontaine. Vous savez, la chèvre et la betterave. Dans la littérature.
La chèvre ayant bêlé
tout l'été rencontrera une betterave. Elle s'en trouva fort dépourvue. Non, j'allais vous dire un truc plutôt sérieux, c'est que dans la littérature grecque, vers 420 avant Jésus-Christ, enfin, j'ai quelques références quand même.
Je vois
la
ça.
Betterave, et oui, la betterave faisait déjà parler d'elle.
Oui, c'est vrai que, alors, c'est vrai que c'est, on trouve comme ça deux, trois textes. On ne consommait pas la betterave telle qu'on la connaît aujourd'hui. En revanche, on avait déjà compris que si on faisait du jus de betterave, on pouvait en tirer un peu de sucre. Et donc, il y avait une espèce de miel végétal qu'on retrouve dans la littérature grecque, comme ça, notamment chez Sénèque.
Il a des lettres.
Qui évoque, c'est des vieux souvenirs de mes cours de grec.
Il a surtout lu Sénéquier, lui. Hein. C'est une autre école.
Notre chapelle, oui.
D'ailleurs, on pense à tout ce qui se passe là-bas parce qu'ils ne sont pas à la fête du côté de Saint-Tropez en ce moment.
Faites gaffe. Hein.
C'est clair. En attendant, il y avait cette histoire de miel végétal chez les Grecs anciens qui était issue de ce qui est devenu ensuite la betterave parce que je pense que ça a tellement dû évoluer en fonction des croisements, etc. etc. que voilà, on en est arrivé à la betterave. La betterave d'ailleurs qui, vous savez, à l'image de l'asperge. Mm-hmm. C'est que l'asperge, ça donne un goût un peu bizarre à vos urines.
Alors, enfin, j'ai pas goûté, mais je parle de l'odeur, moi.
Oui, des flaveurs gras à cause de
à cause du
sulfure de diméthyle.
Ça doit être ça, oui.
À votre santé.
Voilà. Eh bien, si vous mangez de la betterave rouge en quantité,
ça sent mauvais aussi.
Non, sachez que vous ferez pipi mauve.
C'est original.
Oui. C'est toujours très amusant.
Ça n'a aucun intérêt en même temps.
Ça n'a aucun intérêt de le savoir, mais il vaut mieux... Non, mais comme ça, au moins, vous n'êtes pas surpris.
Non, mais ça explique le fait qu'on utilise la betterave pour des colorants industriels,
absolument.
Etc. Parce que c'est mal dégradé, en fait, la betterave par le corps humain.
Je vous le confirme.
Voilà,
je vous le confirme.
Il faut le dire.
Non, puis c'est en même temps, je note que vous savez lire mes notes.
Je suis un peu là pour ça aussi. Ça va se payer, ça. Nathalie est là.
Oui, Jean-Michel Zeka.
Au rayon des phrases imprononçables. Quelle est la carte d'identité de la betterave ?
Ben, elle semble originaire de Germanie. Alors, on sait que les Germains, donc les ancêtres de nos Allemands, la faisaient cuire sous la cendre en hiver et puis la mangeaient en salade, un petit peu comme des carottes saupoudrées de poivre. Ils la faisaient aussi cuire en compote. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du sucre, je ne sais pas s'ils l'avaient observé. Bon, peut-être oui. Que oui. Ouais. Et puis, ils l'assaisonnaient de réfort sauvage pour en accompagner des rôtis.
Ça peut être intéressant, ça, betterave réfort.
Betterave et réfort. En tout cas, c'est vrai que betterave est adorée des Scandinaves puisqu'on la trouve souvent en association gourmande avec du hareng et plein de poissons fumés. On l'a vu hier avec l'escale de rêve de l'ami Jean Seb au Danemark.
Du réfort, on en met aussi de temps en temps en Pologne et en Russie quand on fait le fameux bortsch qui est une soupe à la betterave absolument sublime.
Absolument. Un peu costaud quand même. Hein.
Ah bah oui, mais
surtout
c'est normal.
Surtout en été. Hein. Ça tient encore.
Ça tient au corps, il faut que ça réchauffe.
Alors, je voulais vous dire aussi une chose, c'est qu'il y a un auteur français qui a parlé de la betterave, c'est Olivier de Serre. En fait, c'est le premier de nos agronomes en 1600. Et lui aussi avait observé sa saveur sucrée. Mais c'est 200 ans plus tard seulement qu'on va vraiment l'exploiter, cette betterave, pour son sucre. Sinon, elle a été aussi beaucoup donnée aux animaux. Enfin, elle servait à nourrir le bétail, mais ce n'était pas la même variété. C'est la betterave fourragère. Donc, très précieuse, cette betterave.
Comment on la prépare, la betterave ? On peut la manger cuite, crue ?
Absolument. Alors, vous savez qu'on peut même cuisiner ces feuilles qu'on appelle donc des fanes, qui ont un goût un petit peu moins astringent et plus sucré que celui des épinards. Et sinon, pour la betterave, en général, c'est vrai qu'on la fait cuire et qu'en fonction de sa taille et de sa fraîcheur, évidemment, le temps de cuisson va varier énormément. Et plus les betteraves sont vieilles et grosse, généralement, et plus le temps de cuisson va être long. Alors, il y a une astuce pour vérifier justement la cuisson. Vous allez observer l'empreinte du doigt après avoir exercé une petite pression sur les betteraves avec votre doigt. Et puis donc, si ça, la peau s'enlève facilement...
Pas la peau de votre doigt, hein, la peau de la betterave.
La cuisson est bonne si la peau s'enlève facilement. On peut aussi les consommer d'ailleurs poêlés, pré-cuits, crus, pourquoi pas justement, coupés en tranches ou en cubes. Et on peut les cuire, alors ça c'est assez intéressant, dans du beurre ou dans de l'huile, voire même dans un sirop de fruits, par exemple sirop de pomme, c'est pas mal.
Alors vous savez qu'on aime bien traquer les aliments un peu rigolos, un peu aphrodisiaques, oui. Tout ça, machin. On raconte que la betterave aurait des vertus. Faut en consommer quelques tonnes, j'imagine. Mais
vous savez que c'est même surnommé le Viagra naturel, carrément, la betterave, quand on se penche sur cette affaire-là, parce qu'elle dope l'activité sexuelle en libérant de l'oxyde nitrique qui favorise la circulation sanguine.
11h-12h30,
RTL vous régale.
Tiens, parlons de coupe de cheveux. Nathalie est là.
Oui, vous aimez la mienne?
Sans transition, sport. On parle de betterave ce matin dans la série des associations.
J'ai pas de shampoing avec, hein, je vous le dis tout de suite, Jean-Michel.
Dans la série des associations culinaires, comment ça marche? Ça se marie bien avec pas mal de légumes, la betterave, Nathalie.
Oui, c'est vrai qu'on a tous une mauvaise image de la betterave à cause de la cantine. Vous savez, des souvenirs effroyables de cantine avec ces petits dés de betterave baignant dans la vinaigrette avec un peu de persil avarié, enfin périmé. C'est pas terrible, mais c'est vrai que elle se marie. Effectivement, avec plein de choses. Alors, par exemple, tous les légumes racines, hein, les panais, les carottes, les céleri raves, également avec des poireaux, avec des oignons, des pommes de terre, des concombres, des tomates, des épinards, de la roquette, des blettes, de l'ail, et aussi avec des fruits. Par exemple, avec des oranges, des mandarines, du citron, des clémentines, des figues, des pommes, plutôt vertes les pommes, hein. Des noisettes, des pistaches et des noix. Et bien sûr, on l'a vu, elle s'associe très bien avec des fromages, dont le chèvre, mais aussi d'autres fromages, à ne pas oublier. Le fromage de brebis, le roquefort, la brousse. Et puis côté viande, elle adore le bœuf et le pigeon, ça marche très très bien. Et puis évidemment, des herbes aromatiques comme la ciboulette, la marjolaine, l'origan, la verveine. Et elle forme, je tiens à le dire, avec le gingembre frais, un couple durable et très aphrodisiaque, n'est-ce pas, Jean-Seb ?
On peut en faire des potages aussi, hein, de betteraves.
Oui, pourquoi pas. Et puis vous pouvez aussi amuser vos enfants et leur faire manger des légumes en la tranchant finement et en la faisant frire. Ça va donner des chips toutes rouges, c'est très marrant. Mmh. Vous pouvez aussi la mixer crue, alors ça j'adore, hein, avec de la banane, du lait de coco, du miel liquide et de la vanille. Bah ça va vous donner une glace incroyable et bluffante.
D'ailleurs, on vous parlera de miel tout à l'heure avec le carnet d'adresses gourmandes RTL vous régale. Aujourd'hui, on parlera apiculture. Jean-Sébastien,
oui.
Cette betterave, on la connaissait rouge foncé, avec un goût un peu terreux et sucré, mais c'est pas que, il y en a d'autres variétés. Hein.
Il y en a plein d'autres variétés, il y a notamment un homme alors qui a magnifié la betterave en cuisine, qui s'appelle Alain Passard, qui a fait découvrir qu'on pouvait faire de la betterave dans une croûte de sel, et ça donne quelque chose d'absolument divin. Il y en a un autre qui a cultivé et qui cultive toujours la betterave, et qui en a proposé des variétés multicolores, comme la Golden Burpee, qui est jaune, comme l'Albina Veredouna à chair blanche, c'est Joël Thiébaut. Joël Thiébaut qui est le Mozart des légumes, qui sur le marché, qui a quelques stands sur 2-3 marchés parisiens. Et ces anciennes variétés hautes en couleur qui viennent d'Italie, Jean-Michel, sont des variétés qui sont arrivées en France, mais en passant par les États-Unis, parce que l'immigration italienne a fait que et tout cela est revenu en France. Et ça fait partie des nouvelles, depuis quelques années maintenant, des nouveaux goûts qu'on peut découvrir, parce que en fonction des variétés, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas que le souvenir de cette betterave rouge qu'on a pendant des dizaines d'années mangée en cube, en boîte ou sous vide, alors que la betterave est un monde de goût et de subtilité absolument sublime.
On sent que vous avez souffert là-dessus.
Mais c'est clair que le souvenir, c'est terrible, parce que comme vous savez que le goût se fait dans l'enfance, et quand on fait manger de la betterave qui sort d'une boîte, la betterave, comme elle prend le goût, généralement, vous avez forcément ce goût ferreux qui est avec la betterave en boîte. Et on a forcément un mauvais souvenir.
Je pense qu'il y avait aussi une variété de betterave qui n'est pas du tout italienne, qui a été très populaire chez nous, notamment au 19e, qui s'appelait la betterave jaune de Castelnaudary. Alors je ne sais pas, je lance peut-être un appel à tous nos auditeurs de cette région. Est-ce qu'on en trouve encore ? Nous, sur les marchés en région parisienne, on n'en a pas. J'adorerais personnellement goûter une betterave jaune de Castelnaudary, variété ancienne.
La betterave qui a un peu retrouvé ses lettres de noblesse avec des variétés qui sont devenus très à la mode, je pense à la betterave Chioggia, qu'on tranche généralement.
À la mandoline,
pour faire
c'est très
de la couleur,
chic.
Oui,
ça fait des belles assiettes créatives chez les chefs.
Ça n'a rien de neuf.
C'est un peu onéreux quand même, hein, faut bien le dire. C'est pas les mêmes prix. Moi, je pense toujours au porte-monnaie de la ménagère et je vous assure que c'est pas donné, la betterave Chioggia.
Alors, pour la ménagère, justement, puisque vous êtes la reine des ménagères dans cette émission, Nathalie, la recette du jour, très vite à retrouver sur RTL.fr. C'est de la salade de betterave, mais
avec de la fleur d'oranger, en effet, ça se marie très, très bien. Ça va réveiller la saveur sucrée de la betterave, mais ça va pas du tout être écœurant. C'est vraiment une recette enfantine. On fait une petite vinaigrette avec du citron, de l'eau de fleur d'oranger, de l'huile neutre, et puis on va ajouter un tout petit peu de piment d'Espelette et un tout petit peu, si on aime évidemment, de la cannelle. Vous retrouverez cette recette, je dis même pas étape par étape parce qu'il y a une seule étape, et bien sur la page de l'émission sur RTL.fr.
Jean-Sébastien.
Juste une chose, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, il y a quand même une histoire absolument exceptionnelle sur la betterave qui a sauver la France au moment du blocus continental entre l'Angleterre et la France, parce que à cette époque, le sucre en France était fourni par les Antilles. On faisait venir du sucre qui provenait de la canne. Et au moment du blocus continental, évidemment, la France n'a plus de sucre. Donc, Bonaparte fait développer la culture de la betterave, puisqu'on avait découvert qu'une variété de betterave pouvait donner du sucre. À partir de là, la France est devenue depuis le premier producteur mondial de sucre issu de la betterave. En revanche, évidemment, à la même époque, en ce début de 19e siècle, ça a été un peu le gros problème des Antilles, c'est que le sucre de canne était devenu obsolète. On n'en a plus besoin et donc on a moins cultivé le sucre pour la canne pour le sucre, mais on a développé la canne à sucre pour en faire du rhum.
Ce qui n'est pas une mauvaise idée.
Et l'industrie sucrière, ce qu'on ne sait pas toujours, elle n'a pas vraiment démarré dans le nord de la France comme on le croit fréquemment, mais elle a démarré à Passy grâce à un homme d'affaires, un banquier qui s'appelait Benjamin de Lesserre, qui est vraiment le bienfaiteur du sucre pour l'humanité.
Tiens, David est à Dijon, il nous dit beaucoup de gens n'aiment pas la betterave rouge parce qu'ils trouvent qu'elle a un goût de terre.
Rien, ne pas en manger, c'est un peu ça.
Et il ajoute que personnellement, il adore ça avec des œufs durs et de la pomme de terre.
Il a raison.
Pourquoi pas, oui, c'est pas une mauvaise idée non plus.
11h-12h30, RTL vous régale.
Et je serais tenté d'ajouter qu'il s'agit là peut-être de la réponse du berger à la bergère, car voici Cathy.
Bonjour Cathy,
qui est productrice de fromage de chèvre, justement, qui écoutait RTL ce matin et qui a appelé le 3210 parce qu'elle avait envie d'intervenir. Vous avez eu raison de le faire parce que ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous d'abord, Cathy. Vous êtes actuellement en cuisine en train d'utiliser votre propre fromage de chèvre, j'imagine.
Exactement, tout à fait. Donc pour ma petite famille, un petit plat que j'aime bien faire et qui est très simple et que tout le monde peut refaire, c'est des lasagnes. Alors, des lasagnes là que j'ai choisi de faire aux courgettes de saison, des petites carottes primeurs. Je vais revenir avec des oignons, des lardons. Pareil pour les courgettes, revenir avec des oignons. Et puis, j'ai fait ma petite béchamel dans laquelle j'ai mis du fromage de chèvre frais. Voilà, et d'accord. Ensuite, je monte mes lasagnes tout bonnement. C'est vrai que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser du chèvre frais dans plein de plats, qu'ils soient plutôt salés en principe. Hein. Là, je fais une salade de tomates aussi.
Je vous interromps, qu'est-ce qu'il a comme particularité ce fromage de chèvre, le vôtre, qui est produit dans la Drôme, du côté de Saint-Bardoux?
Nous on est dans la Drôme, on est à Saint-Bardoux, la chèvre adorée, hein, c'est notre nom de famille, on a joué un petit peu sur les mots. Voilà, et en fait, donc ce fromage de chèvre, c'est ce qu'on appelle la tome de chèvre chez nous. Plus particulièrement, vous le connaissez en principe sous le nom de picodon.
Ah c'est ça, d'accord, ça ressemble à du picodon donc. Et vous l'utilisez dans toutes vos préparations, ces produits chez vous à Saint-Bardoux. On parlait du cheptel d'ailleurs, caprin français. Ça représente combien de bêtes, votre élevage?
Alors nous, on a 160 chèvres en élevage.
Ah oui, quand même.
Voilà, oui, oui. Donc, en fait, mon mari est associé avec son frère. Hein, ils travaillent tous les deux. Moi, je suis salariée du GAEC. Alors, on vend tout en vente directe.
Cathy, voilà. Je vous interromps parce que j'ai l'impression qu'il y a une chèvre qui frappe à la porte là depuis tout à l'heure dans la communication téléphonique. C'est un peu particulier et elle commence à s'agacer. Donc, avant qu'elle défonce, on va vous laisser retourner à votre lasagne, vous embrassant et vous offrant un guide du routard et une montre RTL. On vous fait un gros bisou, Cathy. Merci de produire des produits artisanaux et de qualité. Et merci d'écouter RTL tout au long de l'été. C'est RTL vous régale, les amis. Et dans quelques minutes, juste après l'info de midi, ce sera le retour de l'escale de rêve de notre camarade Jean-Sébastien Petit-Demange. Où allez-vous nous emmener, Jean-Seb, ce matin ?
Direction Marseille.
Ça sent la bouillabaisse ou plus surprenant que ça ?
Non.
Non, on fera dans le cliché, mais on peut le faire de temps en temps.
On fera dans le cliché, mais c'est vrai que c'est une émotion particulière quand on goûte une vraie bouillabaisse pour la première fois.
On parlera de miel aussi dans le carnet d'adresses et puis on vous racontera l'histoire ce matin.
Du baba au rhum.
On revient dans quelques instants. Vous êtes sur RTL. C'est en direct jusqu'à midi et demi. RTL vous régale.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Et je vous en parlais, c'est l'heure de l'escale de rêve de Jean-Sébastien Petit-Demange. On fait le tour du monde et parfois, l'escale nous emmène en France. Nous partons pour la Provence, direction le sud. Une histoire qui commence, vous le disiez, à Marseille. C'était votre première fois dans la cité phocéenne ?
Exactement. C'est la première fois que je me retrouvais là-bas et je m'étais mis en quête, évidemment, d'une vraie bouillabaisse. Hein, forcément, c'est le cliché absolu, mais c'est aussi le fantasme intégral pour celui qui est amoureux de la gastronomie et de l'histoire des lieux. Évidemment, j'avais lu pas mal d'ouvrages sur Marseille, sur ce plat inséparable de la ville, parce que rares sont les recettes qui véhiculent autant de fantasmes. Mais en fait, c'est totalement à l'image de Marseille elle-même. La ville est certes une des plus attachantes qui soit. Quand on arrive pour la première fois, on est frappé par l'accent qui rappelle Fernandel. Le pastis n'est pas un cliché. La pétanque et l'heure de la sieste ne sont pas que des fantasmes. Notre-Dame de la Garde est vraiment la bonne mère qui veille sur la ville de son ombre tutélaire. Et lorsqu'on est là-haut, à un peu plus de 180 mètres, on ne trouve pas de bouillabaisse, bien sûr. Mais on comprend une chose, la vocation méditerranéenne de cette cité entourée de collines et qui en fait est ouverte sur le large. Et si on imagine une seconde les phocéens arrivant ici il y a plus de 2600 ans, ben on comprend pourquoi ils s'installent dans cette anse sublime sans aucune hésitation.
Alors d'accord pour l'histoire, mais ça nous éloigne un peu de la bouillabaisse.
Oui, mais quand on descend, on arrive directement au vieux port. Ouais. Et là, il y a le quai des Belges, qui bat encore le matin au rythme du marché aux poissons. Du coup, on découvre les merveilles de la Méditerranée, qui doivent se retrouver dans cette bouillabaisse que je cherchais. Parce que le générique de cet opéra maritime est rempli de stars. Hein. Il y a les poissons de roche, le congre, la girelle, le grondin, la baudroie. On peut faire appel à la murène, au Saint-Pierre, à la vive. Il y a la rascasse, bien sûr. Et puis, le mulet, le merlan, la dorade. Il faut qu'il y en ait au moins 4 ou 5 pour avoir une vraie bouillabaisse. Et puis, très vite, on se rend compte que cette bouillabaisse mythique, en fait, c'est un poème. C'est un plat nostalgique. C'est une soupe dont certains disent qu'elle est d'or. En aucun cas, la bouillabaisse n'est un plat folklorique. Ou pire, un plat touristique qui arnaque le client en lui apportant un infâme bouillon safrané dans lequel surnagent quelques pauvres tronçons de poissons décongelés et non identifiés. Effectivement, ils sont nombreux, hein, les restaurants autour du Vieux-Port, à offrir aux touristes néophytes des soupes improbables et sans intérêt. Mais Dieu merci, on m'avait dit, il faut absolument que tu ailles au Vallon des Auffes. C'est l'un des lieux magiques dont Marseille a le secret. Vous prenez la corniche, à un moment, vous avez quelques escaliers, vous descendez et là, vous craquez comme je l'ai fait pour ce petit port de pêche de cartes postales avec son viaduc en fond de décor qui ouvre sur la Méditerranée. Son nom provient de l'alfa, le ofo en provençal, une herbe d'Afrique du Nord et d'Espagne employée dans la fabrication des cordages et des tissus qui étaient autrefois stockés dans ce vallon des Auffes. Et c'est ici que depuis 52, on sert 1952, on sert une bouillabaisse, pas 52 avant Jésus-Christ, mais une bouillabaisse totalement ultime. Je suis arrivé presque ému dans ce restaurant, chez Fonfon, et lorsque j'ai vu les plats arriver, bah oui, ça s'appelle chez Fonfon.
Non, mais je vous écoute religieusement.
Il y a le bouillon, il y a les poissons, il y a les petits à côté, la rouille. Mes narines étaient en émoi tellement les flaveurs étaient belles, suaves et prometteuses. Les poissons étaient entiers, comme il est de coutume. Qu'il soit la rouille avait un caractère tout méditerranéen qui donnait du plaisir à ce plat. Les pommes de terre permettaient de faire des transitions douces entre chaque poisson. Et ce fut une première initiation, ce fut une leçon. C'est également pour moi devenu une exigence, car parfois, il ne faut pas jouer, il ne faut pas trahir, il ne faut pas revisiter un plat, surtout quand c'est une institution. Et puis, en fait, quand on mange une bouillabaisse, comme disait la chanson, on a un peu l'impression de...
J'ai fait l'amour avec la mer.
Oh, c'est beau !
Je rappelle que ce poème vous était offert par Jean-Sébastien Petit-Demange ce matin. L'histoire de sa première bouillabaisse. Et je sais, Jean-Seb, ça fait toujours comme ça la première fois.
Je sais.
Dans un instant, le carnet d'adresses d'RTL vous régale. Notre coup de cœur de ce mardi midi s'appelle Benoît-Marie. L'histoire est belle, on vous la raconte dans un instant. Sa famille fait du miel depuis trois générations.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
À la découverte ce matin d'un produit de tradition, d'un des produits qu'on consomme le plus aujourd'hui. Vous en tartinez peut-être tous les matins sur votre pain. Pourtant, on ne dit pas assez que c'est un des rares produits 100% pur et naturel, sans additifs, sans conservateurs, qui résulte d'une incroyable alchimie naturelle entre le nectar des fleurs et des abeilles. C'est le miel. On va en parler avec quelqu'un dont c'est le boulot, c'est Benoît-Marie. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RTL. Je signale que vous êtes le président de la famille Marie, hein, récoltant et sélectionneur de miel depuis 1921. Avant toute chose, j'ai devant moi un pot de miel et de fleurs de sel de Guérande qui provient de chez vous, de la famille Marie, ainsi que des bonbons au miel et fleurs de sel également. Et on voulait vous remercier pour ce colis que vous nous avez fait parvenir. On va goûter ça très rapidement. Je pense que Jean-Sébastien est déjà dans la dégustation.
Pas du tout.
Il a le petit doigt dedans, je dois vous le dire.
Arrêtez de dire n'importe
ours.
Quoi.
Ça donne quoi Tout de suite en direct, comme ça, on sent bien la fleur de sel ?
Oui.
Alors, justement, c'est précieux, Benoît-Marie, le miel pour vous. Et pour nous aussi, ça doit être précieux.
Oui, c'est un produit, le miel, c'est un produit extraordinaire. C'est un produit issu du nectar, qui est un des plus anciens sucres de l'histoire, qui remonte à l'Antiquité, et qui est un produit qui est largement relié à l'écosystème et à l'environnement.
C'est ça. Vous êtes propriétaire de 1000 ruches. On est à Saint-André-de-la-Marche, au cœur de la vallée de la Loire. Je le disais, vous faites du miel depuis trois générations. J'imagine que vous n'allez pas nous livrer vos secrets, mais en règle générale, entre nous, le secret pour un bon miel, c'est quoi, Benoît ?
Pour un bon miel, le secret, c'est d'une part des abeilles en bonne santé. Ouais. C'est une variété, c'est une floraison associée à un climat, on va dire une météo favorable, printanière et durant la période estivale. C'est l'amour que l'apiculteur a pu donner à ses abeilles et puis également tout l'art derrière de pouvoir effectivement à proposer des miels de variétés florales originales et différentes.
Benoît-Marie, bonjour. Vous parliez à l'instant d'abeilles en bonne santé. J'imagine que, comme beaucoup d'entre nous, vous attendez avec impatience l'interdiction des pesticides, insecticides, tueurs d'abeilles, les fameux néonicotinoïdes dont on a beaucoup parlé au mois de juin.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Nous sommes très à l'écoute de ces évolutions réglementaires et très politiques pour lesquelles, effectivement, l'abeille aujourd'hui est très, très, on va dire, est condamnée. Hein. Puisque nous avons toujours effectivement des soucis sur la santé de nos abeilles qui durent depuis quelques années déjà et pour lesquels nous espérons que les autorités vont pouvoir interdire ces produits.
Benoît-Marie, on dira jamais assez que non seulement l'abeille effectivement nous donne ce produit qui est absolument sublime depuis la nuit des temps qui s'appelle le miel, mais aussi l'abeille nous permet de vivre. Parce que s'il n'y a pas d'abeille, je voudrais bien savoir comment on va commencer à polliniser chaque fleur d'abricotier, chaque fleur de pommier. L'enjeu, il est là.
Tout à fait, c'est un enjeu indispensable. Selon effectivement une récente étude de l'INRA, il y a plus de 20 000 nombres de plantes à fleurs et à fruits qui sont aujourd'hui pollinisés par les abeilles. C'est-à-dire 35% de la quantité de notre alimentation et jusqu'à 65% de ses diversités dépendent aujourd'hui de la pollinisation et donc des abeilles.
Et c'est quelque chose, c'est vraiment, c'est, enfin moi je me positionne même pas sur l'enjeu de santé publique, on est sur
c'est
un enjeu
évidence.
De survie humaine, de sur le, la, pour, il faut absolument préserver les abeilles à tout prix, c'est une des raisons de la vie de l'homme aujourd'hui sur Terre.
Tout à fait, Albert Einstein disait qu'il restait quelques années à vivre à l'homme lorsque les abeilles disparaîtraient. Bon, c'est bon sans aller jusqu'à ces termes-là. Effectivement, l'abeille a un rôle indispensable à l'époque, à la période où les nutritionnistes conseillent de manger 5 fruits et légumes par jour. Si on veut garder les fruits sur nos étals, eh bien, il est indispensable, il est obligatoire des abeilles. Imaginez des étals à moitié vides. C'est un peu ce qui se passerait si nous n'avions plus d'abeilles.
Benoît Marie, plus légèrement, il y a une tradition qui m'a vraiment étonné chez vous. J'ai la photo sous les yeux, donc je peux me permettre d'en parler. C'est-à-dire que cette tradition consiste pour tous les hommes de votre famille à se faire mettre sur le torse nu des milliers d'abeilles. Alors la photo que j'ai sous les yeux, c'est votre grand-père, je pense, qui est le fondateur de la Maison Marie. Il a sur lui, je crois, entre 30 000 et 50 000 abeilles sur le torse.
C'est bien ça, oui.
Pourquoi vous faites ça? Ne le faites pas chez vous, c'est très dangereux.
Non, effectivement, bon, il faut éviter de le faire chez soi. Bon, ceci dit, c'est une tradition familiale que nous réalisons depuis 3 générations, puisque je l'ai fait moi-même 3 fois dans ma vie. C'est une manière de montrer aux petits et grands que les abeilles domestiques ne sont pas du tout agressives, contrairement aux guêpes ou aux frelons, pour lesquels il y a souvent une amalgame.
Alors justement.
Et pour lequel, effectivement, on a une opération qui consiste préalablement à adoucir l'humeur des abeilles avec un enfumoir, qui est l'outil traditionnel de l'apiculteur, qui est à base d'écorce et de végétaux secs, et pour lequel nous calmons un peu les abeilles, et en se faisant monter quelques abeilles et la reine sur le ventre, toute la colonie suit derrière, et donc ça fait effectivement beaucoup d'effets auprès de petits et grands.
Juste un détail pratique, dans les pique-niques, généralement, l'été, on n'aime pas trop quand les guêpes sont attirées par ce qu'on mange, et on a tendance à les fracasser, c'est idiot, mais c'est un réflexe. Comment on fait la distinguo justement entre une guêpe et une abeille? Est-ce que c'est visible à l'œil nu pour le commun des mortels?
Alors oui, alors de manière très simple, pour tous les gens qui sont amenés cet été à avoir ce type d'insectes autour de leur nappe et de leur table, l'abeille, à la différence de la guêpe, a une couleur beaucoup plus marron, beaucoup plus cuivrée. La guêpe a des rayures qui sont d'un jaune assez vif.
Voilà la différence.
Voilà.
Donc vous avez eu entre 30 000 et 50 000 abeilles sur le torse, vous l'avez fait 3 fois, vous n'avez jamais été piqué, c'est vous dire. À l'inverse de Pierre Richard d'ailleurs, il y en avait une dans l'avion, il s'est mis à gonfler. Benoît Marie, je plaisante mais je rappelle que vous êtes le producteur d'un produit merveilleux qui s'appelle le miel, que vous êtes le président de la famille Marie, récoltant et sélectionneur de miel depuis 1921 à Saint-André-de-la-Marche, au cœur de la vallée de la Loire. Merci pour ces bons produits, merci pour nous avoir parlé de votre passion et on vous embrasse, on vous souhaite un très bel été.
Très bien, mais je vous conseille le miel à la fleur de sel sur une tartine le matin, au petit déjeuner, c'est un régal. Et très bonne journée à vous.
On n'y manquera pas.
Je le
Merci.
Vois bien sur une crêpe,
Benoît
ça.
Ben,
faites ce que vous voulez, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Benoît.
Et du beurre.
Bon été à vous, calme-toi.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Dans l'histoire d'un plat, ce matin, enfin ce début d'après-midi, carrément, Nathalie Elal, c'est même l'histoire d'un dessert. Un dessert pour lequel pas mal d'entre nous pourraient se damner.
Oui, moi la première d'ailleurs, je vous confirme.
C'est le baba au rhum.
Oui. Alors en forme de bouchon, légèrement penché, accompagné d'une crème chantilly vaporeuse et copieusement arrosée d'un sirop de rhum et de sucre, le baba vient d'atterrir dans votre assiette. Généralement, la bouteille de rhum est posée à côté pour vous en servir et resservir à discrétion. Évidemment, savez-vous qu'on doit cette merveille à un roi de Pologne exilé, résidant en Lorraine au château de Lunéville, le roi Stanislas, un épicurien notoire. À peine installé sur ses terres d'adoption, il a déjà repéré une spécialité locale, le kouglof, et en a fait l'un de ses desserts favoris. Alors on suppose que comme bon nombre de ses contemporains, le bon roi souffrait probablement des dents. On suppose aussi que son cuisinier ou son pâtissier a eu l'idée de détremper un kouglof trop sec avec du vin doux pour qu'il puisse l'avaler sans difficulté. Le bon roi apprécie tant cette nouvelle version de sa brioche habituelle qu'il demande que l'on en fasse un gâteau à part entière et qu'on le lui présente arrosé de vin de Malaga additionné d'un sirop de sucre et de pistil de safran. Et quand le lendemain, son pâtissier vient s'enquérir du nom dont il faut baptiser le gâteau, eh bien les courtisans n'hésitent pas longtemps. Connaissant le goût de leur souverain pour les contes des mille et une nuits, ils suggèrent Alibaba. Il y a d'autres hypothèses, notamment que le baba emprunterait en fait son nom au mot polonais baba, qui signifie littéralement bonne femme ou encore petite grand-mère. Et c'est également, à une lettre près, le nom d'une pâtisserie polonaise, le babka. C'est un gâteau traditionnel en forme de jupe plissée de grand-mère, la babka. D'autant que, pour le distinguer du kouglof dont il possédait la même pâte levée au raisin de Malaga, les pâtissiers du roi se mirent à cuire le nouveau gâteau dans un moule cylindrique aux parois lisses, semblable à une corolle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 5 ans plus tard, un ancien écuyer de cuisine de Stanislas, Nicolas Storer, natif de Lunéville, ouvre une échoppe à Paris, rue Montorgueil, où il commercialise entre autres délices le fameux baba. Alors ce baba, bien sûr, avait subi quelques modifications en quittant la Lorraine, puisqu'il était désormais imbibé à l'aide d'un pinceau, d'un sirop parfumé au rhum et se vendait même en portions individuelles. C'est seulement des années plus tard que fut adopté le principe de l'immersion du gâteau dans son sirop alcoolisé. Alors aujourd'hui, le baba, un des desserts favoris de beaucoup de Français d'ailleurs, qu'il soit au rhum ou à la liqueur de citron garni de fruits confits ou de fruits frais, reste l'un des rois de la pâtisserie française et lui ne risque pas du tout d'être exilé de nos assiettes.
C'était l'histoire du baba au rhum, signé Nathalie Elal.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Le fromage de chèvre et la betterave étaient à la une de RTL vous régale. Aujourd'hui, à ce propos, je voudrais qu'on torde le cou à une légende, parce que Thérèse, au 64-900, avec le mot régal, nous envoie un message en nous disant « C'est vrai, vous avez parlé de fromage de chèvre » et elle fait référence à cette citation qui serait du général de Gaulle et qui disait qu'il est difficile de gouverner un pays dans lequel il y a autant de fromages différents.
Le général de Gaulle a dit, en fait, il est un pays qui produit plus de 300 sortes de fromages ne peut pas perdre la guerre.
Ça, c'est ce qu'il a dit.
Ça,
c'est pour le général.
Et en fait, parce que les deux frères ennemis, pendant la guerre, Churchill et de Gaulle a dit, un pays qui produit, en réponse à de Gaulle, Churchill a dit, un produit qui produit 300 sortes de fromages ne peut pas être gouverné.
Voilà, c'était le petit jeu des frères ennemis. Comme ça, on a rétabli une vérité. Merci Thérèse de nous écouter le matin sur RTL. Que retiendrons-nous aujourd'hui de cette émission? Que les Grecs et les Romains se nourrissaient déjà de lait de chèvre. Que la France est le premier producteur au monde de fromage de chèvre. Que la betterave, quand elle est considérée comme un Viagra naturel, bon, il faut en manger des quantités considérables, que ses feuilles se cuisinent un peu comme des épinards. Attention à la betterave crue. Et puis n'oubliez jamais que le baba au rhum vient d'un roi polonais, le roi
Stanislas.
Alors justement, Nathalie, le programme de demain dans RTL vous régale avec une association qui peut paraître un peu surprenante.
Oui, elle l'est, c'est vrai. Ce sont les poissons blancs avec des poires.
Je sais que c'est une association qui était chère à Jean-Sébastien d'ailleurs.
J'adore ça, moi.
C'est pas forcément un truc auquel on pense, poisson blanc, poire.
Non, pas spontanément.
Ça marche,
hein.
On vous dira tout demain.
Bah oui.
Est-ce qu'on cuisine demain dans cette émission ou pas?
Peut-être.
Ouais, le teasing continue. Et puis je sais que vous êtes une insatiable gourmande, Nathalie. Demain, l'histoire d'un truc qu'on adore aussi, le cannelé. Et alors j'ai retenu une chose aussi à propos de votre cannelé, si j'ose dire, c'est que vous le produisez maison.
Oui, j'ai fait des promesses à ce micro. Oui, oui, absolument.
C'est-à-dire
que je vais vous en apporter quelques-uns.
Mais est-ce que ce cannelé que vous allez nous apporter demain est vraiment limite un peu brûlé sur le dessous?
Ah, il faut qu'il soit un peu brûlé. Et puis surtout, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'autres fleurs d'oranger, beaucoup de rhum dans la pâte. Il faut qu'elle repose amoureusement toute la nuit dans mon frigo.
Voilà.
En pensez à vous.
Il faut surtout qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'amour.
Exactement. Il y en aura.
Nathalie,
je vous le garantis.
On sera là demain avec un nouveau producteur de produits locaux, aussi un nouvel artisan dans cette émission. Et je vous rappelle que si vous voulez intervenir demain, vous pouvez déjà le faire maintenant en appelant le 3210 ou par SMS le 64-900 avec le mot régal pour tenter de coller Jean-Sébastien ou Nathalie. On adore ça. Le match de l'été continue. On vous souhaite une très belle journée à l'écoute d'RTL. Dans un instant, Vincent Parisot pour RTL Midi. Vous écoutez RTL, il est midi et demi.